du lundi au vendredi à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux? Qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain que la liberté?
Tout ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel.
Les gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être là pour suivre l'émission Club de la Presse. Nous sommes au rendez-vous et nous savons très bien que vous êtes aussi à ce rendez-vous. Nous sommes au vendredi 5 avril de l'année de grâce 2024. Il est 11h, passé de quelques instants. Merci de nous choisir pour ce nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était d'ATV sur la mise en onde. Jérôme Dakoucha sur la mise en ligne. Je suis au micro Pascal Losso. Comme toujours, vous le savez très bien, vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Déjà, nous sommes au vendredi. Vous savez que Francisco Napokoura doit être là puisque il fait partie alors de l'équipe de vendredi. Francisco, bonjour.
Oui, bonjour cher Pascal. Bonjour aux confrères en studio et puis aux techniciens derrière la baie vitrée. Et aux populations qui nous écoutent.
Olivier Adja aussi est là. Olivier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour auditeurs, aux confrères ici en studio. Le technicien était très content qu'on lui dise bonjour. Alors bonjour à tous les techniciens qui sont au contrôle et aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent.
Votre sourire augure vraiment une bonne émission déjà ce matin.
Ah ben si vous le dites.
Alors voilà, puisque déjà nous avons une surprise avais-je dit, mais il saura quand même me le dire. Jamais Pouli, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
Je parle de surprise parce que je vous ai vu quand même à l'heure aujourd'hui.
Avant. Non, c'est pas une surprise, c'est plutôt une.
5 minutes avant le début de l'émission.
C'est une information que je crois que je suis dans ma.
Ok, il y a aussi Firmin Teko Agbo. Firmin, bonjour.
Bonjour Pascal Lousseau, merci de m'avoir invité.
D'accord, j'espère que tu as bien passé la semaine.
Hein. Oui, tout s'est bien passé avec la grâce de Dieu.
C'est l'essentiel.
Et avec la grâce de Dieu, on fera un bon débat.
C'est clair, implorons toujours cette grâce et je sais quand même que nous ferons vraiment de bons débats tels que tu l'as dit. Nous commençons l'émission de ce matin avec ce sujet que nous donne Tampa Express. Francisco, vous écrivez à la une de votre journal ce matin, retard dans les travaux d'entretien et de dragage du bassin orageux de Agouette et les sous Léo 2000, les riverains déjà plongés dans les psychodrames des années précédentes. Alors, c'est quoi concrètement cette affaire?
Oui, vous savez que la ville de Lomé compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de bassins de rétention. Et normalement, pour chaque bassin de rétention, il doit avoir une planification, un programme, n'est-ce pas, d'entretien. Et c'est l'entretien qui permet, n'est-ce pas, régulier, qui permet à chaque bassin de jouer son rôle, c'est-à-dire le rôle de stockage. Mais malheureusement, et ces bassins, déjà avec les premières pluies, sont déjà pleins. Il n'y a pas que Agoué Télésou. Dès même la pluie du 4 dernier, quand vous voyez au niveau des deux lions, les deux bassins, déjà le milieu, l'eau a rempli. Donc il y a vraiment des dégâts. Hein. Par exemple, quand je prends celui de Télésou, a déjà fait 5 morts. Les hauts 2000.
Comment ça s'est passé? Comment?
Oui, même un gardien, un agent de sécurité de ce bassin a été retrouvé il y a quelques années mort. Noyé, n'est-ce pas, dans le bassin. Et donc, aujourd'hui, c'est un danger parce que il faut voir tous les environs des bassins. Quand il pleut, les activités économiques cessent, il y a les bestioles, il y a tout l'eau qui inonde la maison des gens, vous savez. Donc, voilà, nous sommes en train encore de fouiner et nous sommes en train de trouver les raisons pour lesquelles il y a tellement de retard dans ces l'exécution de ces travaux.
Alors, c'est un sujet que nous avons toujours évoqué. Je veux bien parler alors de cette question, alors de d'exécution, alors des travaux sur nos routes, bien sûr. Olivier, déjà les périodes de pluie vont commencer encore très bientôt. Et là, ça veut dire que les populations vont vivre encore le calvaire.
Oui, c'est malheureux, mais je crois que on a l'impression qu'on se répète chaque année, puisque je crois l'année dernière, l'année d'avant. Et en période de pluie, c'est le même débat que nous avons ici. C'est le débat donc des inondations dans la capitale Lomé et dans d'autres villes du pays. Mais aussi, c'est le débat sur les travaux qui sont construits pour dans les bassins de rétention dans les quartiers. Et on a maintes fois relevé que ces bassins sont devenus donc des sources plutôt d'inondations. Bien sûr, certains nous ont dit non, que voilà, donc les problèmes sont ailleurs, puisque ces bassins avaient besoin donc d'autres équipements comme les générateurs ou les groupes électrogènes pour pouvoir évacuer les eaux et que ce n'est pas fait. Mais quand même, la réalité est là. D'abord, les bassins n'arrivent pas à contenir les quantités d'eau que les pluies déversent dans le pays ou dans la ville de Lomé. De deux, c'est que ces bassins sont devenus des sources d'insécurité et de danger parce qu'on a l'impression que des criminels agressent des gens et voilà donc commettent des crimes et jettent des corps dans ces bassins. L'exemple est le 4e lac de Lomé ou de Bay et à Côte-Sewa ou ce lac-là. Et pratiquement, il y a un temps où chaque mois, on retrouvait un corps chaque 3 mois, on retrouvait un corps dans ce bassin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? Est-ce qu'il faut attendre que le pire arrive ou le pire se succède avant qu'on puisse prendre des mesures? C'est bien. Je crois que à la base, l'autorité, ceux qui ont construit ces bassins avaient une vision noble pour pouvoir faire face aux problèmes d'inondation. Mais aujourd'hui, la réalité est là, c'est que ces bassins cause beaucoup de problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons toujours posé cette question, mais les solutions ne sont pas encore trouvées. Nous commençons une année de saison pluvieuse. On reprend encore avec le même débat. Voilà, les inondations au niveau des bassins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on a l'impression de prêcher dans le vide ou d'être comme un apôtre ou Jean qui prêche dans le désert. Il n'y a personne pour écouter et pour trouver des solutions pérennes et qui puissent une fois pour de bon et résoudre le problème. Malheureusement, on lance un appel encore. Nous, on ne cessera de le dire, on ne cessera de lancer cette alerte que ces bassins causent des soucis. Maintenant, qui sont ceux qui peuvent trouver des solutions et répondre à notre appel? On ne sait pas encore.
D'accord. J'aimerais pour lui, c'est vrai que, on l'a dit, ces bassins sont source de problèmes. On a d'abord l'insécurité et aussi, on voit l'inondation. Nous allons rentrer dans les périodes de pluie, nous le disons tout de suite. Mais il est très important quand même qu'on pense à une solution durable pour que, du moins, on ne revienne pas toujours sur ce débat.
Oui, bon, l'histoire du bassin, c'est peut-être comme l'histoire du couteau, hein, qui peut servir à faire de la cuisine, comme qui peut blesser, qui peut tuer. Donc, on sait que les inondations tuent. Hein, quand l'eau envahit les gens dans les maisons, on en a vu hein, dans plusieurs pays. Donc, les gens, même certains sont morts même dans leur voiture. Et donc, les inondations tuent. Maintenant, comme solution, on a pensé à ces bassins de rétention qui ont été des solutions jusqu'à un moment avant l'apparition donc de ces problèmes-là, dû essentiellement à un défaut d'entretien de ces bassins qui sont trop vite débordés. Le système de pompage ou d'évacuation n'est pas toujours efficace. Et là, tout dépend aussi du matériel qu'on met en place. Est-ce qu'il est adapté? Est-ce qu'il y a une maintenance régulière donc de ce matériel-là? Et puis, il y a aussi des causes qui sont dues à nous-mêmes, la population. Vous savez que les ordures, le sable, le fait de boucher des caniveaux, on trouve même parfois des matelas, des chaises en plastique dans tous ces caniveaux-là. Et le sable aussi, régulièrement, voire des rues d'eau. Ça aussi complique l'efficacité de ce dispositif qui a été mis en place. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les inondations sont là. L'une des causes, c'est le dérèglement climatique. Même le pays qui se disait un peu à l'abri, des pays développés comme la France, dans la région de Paris et tout ça, c'est plein de problèmes, avec des morts parfois. Et donc, le problème est à divers niveaux. À une échelle plus grande, il faut être beaucoup plus soucieux de ce que l'environnement mérite d'être traité autrement par l'homme. Maintenant, dans un niveau plus bas qui est le nôtre, c'est que le dirigeant s'active pour trouver des solutions durables. Donc le matériel qui est utilisé au niveau de ces bassins doit être un matériel de qualité, résistant. Et puis les employés, les techniciens qui travaillent doivent aussi avoir la maîtrise de ces choses. Et puis, comme je le disais, par nos comportements aussi, on peut éviter que ces bassins-là soit vite à déborder donc l'un dans l'autre. Après, on s'en prend à l'État, c'est normal. On s'en prend aux communes aussi, aujourd'hui avec l'arrivée des maires, c'est normal. Après, aussi, il faut quand même penser et à suivre les populations et à les amener à collaborer avec les officiels pour rendre ces solutions-là efficaces. Bon, on ne peut pas dire que les bassins causent plus de préjudice qu'ils n'apportent de solutions. En réalité, ça a été des solutions dès le début quand tout fonctionnait bien, mais très vite il y a eu ces dysfonctionnements là qui sont venus apporter un discrédit sur l'efficacité de ces bassins. Mais je crois qu'on peut trouver des solutions.
D'accord, on peut trouver des solutions. Et Fernand, comment vous expliquez le fait que déjà chaque année nous avons les mêmes problèmes? Problème, quand on parle alors des bassins, et surtout avec l'inondation, chaque année, on a toujours ces mêmes problèmes, tandis que, allez, ou du moins, on ne trouve pas alors de solution à ces problèmes, et chaque année, on endure les mêmes calvaires.
On endurera toujours les mêmes calvaires, puisque c'est un problème d'adaptation. Le problème de bassin est comparable à celui du nouveau marché que vous venez de construire. Et vous demandez aux femmes d'occuper ces marchés. Elles n'y vont pas, parce qu'elles se disent qu'en réalité, en Afrique, un marché se crée. Ce n'est pas à vous d'aller créer le marché. Il y a toujours un problème d'adaptation. C'est pour cela que nous avons ce problème-là, ce sérieux problème en Afrique. C'est comme l'histoire des bassins, ça n'existe pas dans notre culture. C'est-à-dire, même les dirigeants, les gens qui construisent les bassins, ils ne s'intéressent pas trop aux notices, c'est-à-dire comment entretenir les bassins et comment associer les populations. Comment sensibiliser les populations, leur dire que cet outil-là, ce dispositif qui est mis en place, c'est aussi dans votre intérêt. Donc, quand les gens ne se sentent pas concernés, il n'y a pas d'adhésion. Ils se disent, vous allez construire le bassin, oui, ça sert à un moment donné, mais le gars, lui, il n'y voit pas trop l'utilité. Donc, il y a sa chaise qui est détruite, qui est cassée à la maison, il vient, il jette dans le bassin. Il y a son matelas qui ne répond plus à ses besoins, il jette dans le bassin. Parce que c'est un problème d'adaptation. C'est pour cela que nous avons toujours, mais nous avons même récemment organisé une rencontre, comment adapter nos concessions à nos réalités. Nos réalités, c'est pas seulement la concession, mais c'est plus fort que ça. C'est ça aussi les réalités africaines. C'est parce qu'on n'arrive pas à s'adapter à ce qui nous est importé. Le système moderne, on n'arrive toujours pas à rentrer dedans. C'est pour cela que vous allez voir les Africains construire de belles maisons. Mais au finish, vous allez voir des années plus tard comment cette maison est délabrée. Parce que ce n'est pas ça dans sa culture. Il a une manière de construire sa maison depuis ses origines. Mais le système moderne lui a été imposé. Mais il y a un petit combat, un petit conflit entre l'ancien système et le nouveau système. Qui est dans son âme, en fait. C'est ce qu'on reflète. C'est la même chose avec le bassin. Et on aura tous ces problèmes-là. L'inondation, bien sûr, ça existe partout. Ça existe partout. Mais
est-ce que les autorités ne doivent pas trouver de solution durable pour ça?
C'est ça, en fait. C'est ce que je dis. C'est pas seulement lié au Togo. C'est ça. Donc, ce qu'on demande, c'est quoi? On veut qu'on construise le Togo comme la France. Vous imaginez? On veut qu'on construise le Togo comme les États-Unis. Vous imaginez? Mais est-ce que ceux-là qui construisent le Togo, ils savent qu'après avoir construit ce Togo, il faut l'entretenir comme on entretient la France ou les États-Unis? C'est ça, c'est un système d'adaptation. Vous allez, parce que nous demandons à ce qu'on fasse comme on le fait ailleurs. Mais ceux-là, ils ont passé des années pour aller à cette école, pour étudier. Et dans cette école-là, je parle d'école, je parle pas d'école classique. Dans cette école, on leur dit, vous faites ceci, vous l'entretenez. Il y a l'entretien qui suit. C'est pour cela que vous allez voir à chaque fois comment c'est beau. C'est comme dans certains pays occidentaux, vous voyez comment chaque fois on lave les routes. On lave les routes pour que ça soit propre. On parfume même les routes. Mais ici, on ne peut pas le faire. Parce que c'est un système d'adaptation, en fait. Donc, ce qu'on demande aux autorités, elles doivent être tout d'abord conscientes qu'il y a quelque chose qui manque. Bien sûr, elles font bien à un niveau, mais il y a toujours quelque chose, quelques dispositions sur les notices qui disent que vous devez entretenir ce que vous construisez. C'est pour ça que la plupart de certains projets n'aboutissent pas, parce que ce n'est pas entretenu. C'est un problème d'adaptation à nos réalités.
D'accord, c'est un problème d'adaptation à nos réalités. Nous allons quitter le sujet, cher confrère.
Ce que Firmin vient de dire,
oui, Francisco.
Oui, extrêmement grave. C'est-à-dire que
comment ça, c'est grave?
Oui, de prendre ceux qui réalisent ou bien ceux qui commanditent ces travaux comme des gens comme des maconnais en quelque sorte. Mais vous n'allez pas me dire que les gens ne savent pas qu'on n'entretient pas et qu'on n'est pas encore adapté sinon rentrer dans l'histoire, comme le disait un certain Nicolas Sarkozy. Non, on connaît, mais il y a une volonté, peut-être une volonté quelque part, de ne pas bien faire.
Hein, sinon, mais comment on peut avoir la volonté de ne pas bien faire?
Ah oui, mais puisque on dit la construction de bassins répond à des normes. Ok? Il faut tout calculer. Le bassin versant tout, avoir la quantité d'eau qui va rentrer. Et au même moment, en fait, le bassin, c'est un réservoir provisoire qui doit être connecté vers d'autres canalisations pour aller soit vers la mer ou vers les rivières ou même la lagune. D'accord? Donc, les gens dimensionnent mal, parce qu'il y a même des études du gouvernement qui démontrent que les gens dimensionnent mal les bassins à la construction. Et aussi maintenant, pour faire partir l'eau, et les temps d'entretien. Parce que si vous avez par exemple un ministère des TP qui est peut-être efficace, qui a fait sa planification pour l'entretien des bassins, et que celui qui doit exécuter, c'est-à-dire signer l'argent, d'accord, pour que les entreprises puissent faire la chose au moment où la saison est sèche et que la personne tarde, c'est que vous allez tomber dans la chose. Donc, dans la chaîne, vous sentez que quelque part, il y a quand même des gens qui sont prêts à avancer, mais ailleurs, il y a d'autres qui retardent. Donc, du coup, lorsque la pluie a déjà commencé et on débourse l'argent pour faire, l'entretien, l'entretien ne peut pas tenir parce qu'on a retardé peut-être sciemment ou artificiellement le process. Donc c'est ce qu'on dit. Donc il faut savoir situer les responsabilités dans la chaîne pour savoir qui il faut rappeler à l'ordre à tel temps. De toute façon, nous sommes en train de faire encore un travail là-dessus et notre prochaine publication porter.
Non, vous savez, vous arrêtez au premier niveau. Moi, je vais un peu au-delà. Au fait, je me dis.
Vous pouvez prendre les autres. Oui. Comme ils ne connaissent pas. Mais sachez que.
Non. Moi, je dis tout le monde. On peut connaître. Moi, je pense qu'on doit aller. Oui, Francisco, pourquoi? Moi, je dis, on peut connaître. C'était ce que vous dites, vous avez parfaitement raison. Moi, je ne suis pas contre vous. Mais ce que je dis, c'est que. Moi, je ne commence pas à étudier. Pourquoi? Chaque fois, on nous reproche les mêmes choses. Pourquoi on n'arrive toujours pas à être au rendez-vous?
Bien sûr, c'était ça, moi, ma question.
Oui, pourquoi on n'arrive toujours pas à être au rendez-vous? C'est-à-dire, vous avez un enfant qui commet chaque fois les mêmes bêtises. C'est ça. Donc, je n'ai pas dit que mon enfant, là, il est têtu. C'est ce qu'il fait tous les matins. Il fait tous les matins. Mais arrive à un moment donné. Mais il faut que je commence pas à m'interroger. Moi, c'est à ce niveau que nous sommes en train d'aller au niveau de notre centre. Et on ne commence pas à réfléchir. On dit peut-être c'est un problème. D'origine, c'est un problème historique, c'est un problème psychologique. Sinon, moi, je suis d'accord avec vous. Ce que vous dites est vrai. Et mais pourquoi les gens quand même
intéressent? Mais ce que nous disons, oui. Tu m'as donné un exemple qui m'a un peu titillé. Non, mais il nous parle du marché où que les gens refusent d'aller parce que, voilà, ce n'est pas dans leur culture, ce n'est pas comme ça qu'on construit les marchés. Mais quelle est la comparaison avec les pensions de rétention d'eau? L'eau n'a jamais refusé de regagner les bassins. Les gens peuvent refuser d'aller dans les marchés, oui, mais l'eau, lui.
Non, mais il parle de comportement.
Non, je parle de comportement.
Je ne refuse pas. Les comportements, en réalité, ce n'est pas lié à ceux qui sont les bénéficiaires de ces bassins. C'est lié à ceux qui construisent ces bassins. C'est lié à ceux qui construisent ces bassins parce que le débat est là. C'est-à-dire, quelles sont les études qui ont été faites en amont? Quelle est la quantité d'eau annuelle que nous savons que notre pays recueille? Et cette localité, quels sont les problèmes d'inondation? Et quelles études on a faites pour pouvoir les régler? D'accord? C'est là le problème se pose. Si vous voulez régler un problème et que vous construisez un bassin de rétention qui n'arrive pas à répondre, l'ingénieur n'a pas bien travaillé. Ceux qui ont fait les études ont mal fait les études de terrain. Donc, là, c'est un élément très important d'abord à relever. Maintenant, ajouter au comportement des personnes qui vont jeter leurs ordures, qui prennent de la maison, qui vont boucher les caniveaux. Ça aussi, c'est un comportement qu'il faut dénoncer ou qu'il faut changer, d'accord? Mais en amont, c'est l'eau est là, on connaît la quantité d'eau qui arrive. Les personnes, ils ont leur comportement. Tu peux me dire d'aller à un endroit, je dis je ne vais pas. Mais tant que tu construis des bons ouvrages, l'eau va suivre tes ouvrages pour aller. C'est ce que moi je dis, je ne dis pas le contraire. Il y a l'élément principal et les éléments secondaires. Mais on ne peut pas mettre l'élément secondaire comme étant les raisons ou les conditions qui font que nous avons ce problème, non.
D'accord, c'est bien compris, Olivier. Voilà, jamais.
Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'on est en train de chercher...
Le
sexe des anges a joué. Non, mais enfin, nous sommes en face de catastrophes naturelles. Et l'homme ne maîtrise plus la nature. Vous avez vu les feux qu'il y a eu au Canada?
Mais on peut être prévisible.
Vous avez vu les tempêtes qu'il y a régulièrement aux États-Unis qui dévastent tout sur le passage. Les inondations en France, dernièrement, il n'y a même pas deux mois. Mais ça tue même tuer des gens. Donc, c'est là, ça déjà, quand on me dit qu'il faut calculer la quantité d'eau qui va tomber, tu n'as.
Ce sont des exemples que moi je
te dis. Oui, ça ne se maîtrise pas. Avant-hier, moi j'étais au bureau jusqu'à 23h30, mais une brusque pluie a démarré. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité d'eau que cette pluie-là a déversée en moins de 30 minutes.
Mais nous avons des chiffres exacts.
Oui, avec la météo, Dieu peut faire vraiment des
choses. La météo n'est pas Dieu, vous aussi. Même la science est limitée. Nous semblons dire, même encore dans ce pays développé, on vous prévient qu'à telle date, il y aura tel vent qui va
souffler. Mais il y a une exactitude.
Après, on n'empêche rien. On vous prévient, on sauve un peu les meubles qu'on peut, mais le truc arrive. Donc, c'est pour vous dire. C'est pour ça que je décrivais ce phénomène. En amont, il y a déjà un dérèglement climatique qui est à la base de tout ça. L'homme, bon, les scientifiques expliquent. On a tellement fait du mal à la nature qu'elle se venge sur nous.
D'accord. Voilà. Merci.
Il y a des causes humaines. Il y a la négligence de ceux qui gèrent ce bassin-là. Il y a aussi les erreurs des populations aussi. Donc, on peut trouver des solutions. C'est là où je disais, là où ça dépend de l'homme, on peut essayer de faire quelque chose. Et là où ça dépend de la nature, c'est encore plus compliqué.
Non, non, je termine par une phrase. Vous savez, quand Firmin parle, Firmin a connu peut-être le Togo de l'incivisme.
Mais est-ce que ça ne continue
pas,
plus?
Non, ne nous parlez pas comme si le Togolais était incivique depuis des années.
Mais Francisco,
on a eu un Togo. Attendez, on a eu
seulement du Togo.
Vous parlez du Togo.
Non, je généralise.
Non. Parce que à chaque fois, vous parlez des réalités comme si les Togolais n'ont pas le sens du bien.
Non.
Mais on veut pas. Il faut apprendre après. Vous avez connu le Togo des années 90.
Non, moi je ne l'imagine pas.
Donc, les Togolais,
c'est bon.
Sont des sociétés disciplinées et qui connaissent. Francisco. Si on les a conduits vers la dérive, c'est ça.
D'accord, c'est bon. S'il vous plaît, on va passer à un autre sujet. C'est passionnant, c'est vrai. Mais on va passer à un autre sujet. Alors, nous passons à ce sujet qui fait assez de débats depuis un temps dans l'opinion, j'allais dire. Je veux bien parler alors de cette question alors de révision constitutionnelle. C'est vrai, avec la question alors de révision constitutionnelle, il y a même d'ailleurs le chef de l'État qui a demandé une relecture de cette révision ou de ce document. Et par après, il y a le chef de l'État qui a rencontré aussi le bureau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on parle plus alors d'une consultation, une large consultation. Alors, et c'est ce qui a fait même d'ailleurs que les élections ont été reportées. D'abord, je reviens sur les journaux, les journaux qui en parlent et qui parlent alors du sujet aujourd'hui. Il y a le Télégramme du Togo qui écrit à sa une: Togo, nouveau report des législatives et régionales à cause de la nouvelle constitution, élections en souffrance. Pourquoi tant d'obstination et de gourmandise? S'interroge alors le journal. Il y a aussi Liberté. Liberté qui écrit: révision de la Constitution, la grosse colère des universitaires, ils sont allés trop loin. C'est également un titre alors sur le sujet du journal Liberté. Le journal Temps Nouveau qui écrit: report des élections législatives et régionales, préciser d'abord les règles du jeu. Et également sur la relecture de la Constitution, le journal écrit: relecture de la Constitution, une deuxième chance pour parvenir à un consensus national, s'interroge aussi le journal Temps Nouveau. Le Canard Indépendant qui titre à ça: une tentative de réécriture de la Constitution, l'opposition appelle à manifester, le pouvoir durcit la répression policière. Alors, Francisco, nous avons tous ensemble appris que les élections sont reportées, s'immédier. Et aujourd'hui, on veut passer plus à une consultation, une large consultation. Et c'est ce que le chef de l'État a demandé à l'Assemblée nationale. Finalement, comment vous avez accueilli cette information?
Vous savez, cette histoire, d'abord, il faut une précision. On n'est pas en train de modification ou bien de quoi
De modifier
De révision de la Constitution. Ce qui a été présenté, c'est une nouvelle Constitution. Il faut bien préciser les termes pour que les gens ne pensent pas que, au fait, c'est la Constitution de 92 révisée qui a été encore révisée. C'est une nouvelle Constitution qui est sortie de nulle part, qui nous a été présentée. Donc, comment nous trouvons? Et puis, la démarche est de retourner cette Constitution à l'Assemblée, elle est normale. Elle est normale parce que le chef de l'État s'est rendu compte que le processus n'a pas suivi son cours normal. Le processus n'a pas du tout, parce que la population à la base n'a pas été consultée. Les intellectuels, même les universitaires qui sautent au chevet de cette constitution ne connaissent pas le contenu, ce qui est bizarre, alors que normalement, dans un pays indépendant pendant 64 ans, on va nous dire que c'est un cabinet extérieur qui vient écrire une constitution pour le Togo et que les gens n'aient pas cette constitution pour véritablement savoir le contenu et qu'on discute seulement autour, n'est-ce pas, de ce que je peux appeler des messages anonymes, parce qu'il y a des constitutions qui circulent sur les réseaux sociaux. En réalité, ces constitutions devaient les retrouver sur les plateformes numériques, sinon le site web par exemple de l'Assemblée nationale, où on va le télécharger. Parce que ce qui circule sur les réseaux sociaux, vous les prenez, c'est tout comme un message anonyme qui est en train d'être distribué. Donc c'est tout à fait normal qu'on retourne et cette constitution à l'Assemblée et nationale et comme sur soi également à ce processus électoral, parce que ce que compose cette constitution engage les futurs députés qui vont être élus, et pas seulement députés, même les sénateurs et autres. Mais je crois le souhait de tous les Togolais, sinon de la majorité des Togolais, devait être que cette constitution-là ne revienne plus jamais. C'est-à-dire que celle qui court actuellement et qui régente le Togo, et qui est d'ailleurs partagée partout dans les pays francophones, il faut que cette constitution soit maintenue. C'était simple, mais on n'arrivait pas à l'utiliser de fort à compte. Il vaut mieux qu'on la garde que d'aller à chose. Mais je remarque que un décret a été signé par le chef de l'État pour les élections législatives et régionales. Et puis, en arrière, des paroles du chef de l'État avaient dit 2023, année électorale. On n'a pas fait. On nous a après dit que le premier trimestre devait être élection. On ne l'a pas fait. On programme élection sur le 20 avril. Et on sort un décret qu'on vient annuler par un communiqué. Ça veut dire, et sinon, si les juristes, j'espère qu'ils ne vont pas encore interpréter autrement, devraient nous dire que le décret pris pour la convocation du corps électoral continue de courir. Ça veut dire qu'en principe, le 20 avril, on doit faire les élections, puisque ce décret n'a pas été rapporté et un communiqué ne fait pas office, n'est-ce pas, d'annulation de décret.
D'accord. Merci beaucoup, Francisco. Oui, c'est vrai que le sujet crée la polémique au sein de l'opinion depuis un temps. Et il y a des voix qui s'élèvent pour s'exprimer sur le sujet. Il y a l'ancien ministre Kako Nubukpo qui s'est exprimé aussi sur le sujet. J'aimerais qu'on l'écoute et on revient juste après.
Non, moi, ma position est claire. Je suis contre cette réforme constitutionnelle sur le plan du principe et sur le plan de l'opportunité. Sur le plan du principe, c'est que la Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est le contrat social. Et comme toute institution, c'est un compromis stabilisé. Et donc, quand on déstabilise un compromis, on prend un risque. Et de ce fait, je suis contre les manipulations de la loi fondamentale. Quelles que puissent être les justifications, par principe, je tiens à la stabilité du contrat social. Maintenant, du point de vue de l'opportunité, c'est une Assemblée nationale qui n'est plus vraiment en activité. Depuis le 7 janvier 2024, le mandat des députés a pris fin. Pour moi, ils évacuent les affaires courantes. C'est comme ça qu'on dit normalement, avant les prochaines législatives du 20 avril prochain. Et donc, changer la Constitution, qui est la loi fondamentale d'un État, par des députés en fin de mandat, sans débat préalable, sans pédagogie de la réforme, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas être acceptable. Donc c'est pour ces deux raisons que j'ai dit publiquement que j'étais contre cette réforme constitutionnelle. Après, par rapport au discours qu'on entend, que le régime parlementaire serait beaucoup plus stable que le régime présidentiel ou semi-présidentiel, ce n'est nullement avéré. Je rappelle simplement que la 4e République en France, qui était un régime parlementaire, fut le régime le plus instable qu'on ait connu.
Il y avait un premier ministre tous les 6 mois.
Mais bien sûr, ce qu'on appelait le régime des partis, avec des coalitions qui se faisaient, qui se défaisaient. Donc pour moi, ce n'est pas une question de débat entre juristes sur les vertus comparées des régimes. C'est une question qui est en amont, celle du contrat social.
C'est une question qui en un mot, celle alors du contrat social. C'est, vous venez là d'écouter l'ancien ministre Kako Nubukpo qui a été interrogé par nos confrères de RFI. Olivier Adja, vous avez écouté Kako Nubukpo sur le sujet. Kako Nubukpo qui dit qu'il est contre la manipulation alors de la loi fondamentale. Est-ce que dans ce cas d'espèce, nous sommes vraiment devant une manipulation alors de la loi fondamentale?
Non, moi je crois que c'est un débat qui est très intéressant.
Et c'est ce que j'aurais voulu. Étant donné que la constitution, c'est d'abord, je sais pas, c'est le ciment ou le socle sur lequel nous tous nous sommes assis. Et il a dit, c'est le document qui officialise notre contrat social, notre appartenance à une nation, la décision de confier le pouvoir d'État à voilà, des entités, à des personnes pour les gérer. Donc c'est un document, et c'est comme un contrat hein, que nous tous, auquel nous tous nous sommes appelés. Donc, et c'est pourquoi la révision et la position du chef de l'État moi, m'a beaucoup fait plaisir. Parce que il a compris, ou il a accepté, ou il a demandé à ce que on puisse ouvrir des consultations qu'on appelle de larges consultations, afin que chacun puisse apporter sa vision. Et c'est comme ça, normalement, au départ, que le processus aurait dû commencer, j'estime. Donc, qu'on est en train de corriger quelque chose qui n'avait pas été bien entrepris. Au départ, ce n'est pas seulement une question qui concerne 19 députés. Ce n'est pas seulement une question qui concerne le Parlement, mais ça va au-delà. Ça concerne tous les 8 millions de Togolais. Puisque on veut changer de régime politique, on veut changer de république. J'aurais encore compris si on s'était limité à des révisions de certaines dispositions de la Constitution. Mais étant donné qu'on veut changer totalement de régime, il fallait quand même mettre en œuvre un débat ou ouvrir un débat national. D'accord, ce qui n'a pas été fait, mais ce qui est en train d'être actuellement fait. Kakongo Mboupo était donc quelqu'un de très respecté et quelqu'un de très respecté plutôt. Et aujourd'hui, il a aussi le droit de se prononcer sur le débat qui est actuellement là. Il a donné son avis. D'autres ont des avis contraires et ils ont aussi le droit de donner leur avis et qu'on doit respecter. Certains disent que le régime parlementaire est le régime le plus adapté à notre situation actuelle. Soit. D'autres disent non. Soit. Mais quand même, ouvrons le débat, donnons la parole à tout le monde, que les gens parlent et qu'on retienne une synthèse pour pouvoir avoir une constitution qui est acceptée par tous et par toutes. D'accord, d'accord? C'est moi ma position et j'estime que aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont des choses à dire, peut-être qu'ils ne les ont pas encore dites, et donnons l'opportunité à ces gens. Je vais terminer sur ça en disant que oui, le Parlement va ouvrir des consultations,
il est dit débat, de larges consultations,
mais derrière ceux qui n'ont pas l'opportunité d'aller au Parlement, il y a de la société civile, il y a donc des groupes organisés, la jeunesse. Il faut prendre en compte tout, notre histoire sociologique, notre histoire politique, notre organisation. Il faut mettre en termes tous, les chefs traditionnels doivent dire leur position, comment ça se fait traditionnellement, pour que nous puissions avoir quelque chose qui ne puisse pas être remis en question demain, parce que si on ne passe pas par cette case, demain celui qui va arriver va dire j'étais pas d'accord, donc on repart à une autre constitution ou à un autre régime. Vous comprenez, moi j'estime que dans un pays, la constitution n'est pas comme une feuille où chaque 5 ans ou chaque 2 ans on va retoucher. C'est vrai, ce n'est pas un monument qui est construit et installé, mais aussi ce n'est pas un document où on peut enlever les feuilles chaque
D'accord, d'accord, chaque merci fois. Olivier. Alors Germain, le chef de l'État a demandé au Parlement de faire une large consultation. L'âge consultation, comment vous comprenez cela et comment on pourra quand même y procéder?
Oui, bon, alors moi le petit souci que j'ai déjà quand j'écoute l'ancien ministre, c'est que les intellectuels ou les politiciens donnent leur position sur la révision, mais ils n'expliquent jamais la constitution, ce qu'il y avait avant et ce qu'on veut faire pour que les populations comprennent. Chacun dit non, ceux qui sont là, ils n'ont pas le droit de faire, ou bien ça ne doit pas toucher.
Aujourd'hui, c'est l'électricité qui est le problème. Qui ne sont pas d'accord sur la procédure.
Voilà. Donc, moi, je crois que le fait de demander une deuxième lecture, c'est non seulement avoir le temps pour avoir des propositions éventuellement pour améliorer le texte, parce que le président dit que c'est un texte perfectible, parce qu'il a vu qu'il y a des contestations. Peut-être que les gens pensent qu'il faut l'améliorer. Maintenant, c'est clair que les députés aussi se sont comportés comme si les Togolais avaient une très grande maturité ou... On dit parlementaire, semi-présidentiel. Les gens comprenaient.
Non.
Alors que même les intellectuels ne comprennent pas ce qui se passe. Ça veut dire qu'il faut une pédagogie. Et il y a eu le même problème aussi en 92. Quand on vient dire, bon, elle a été adoptée à quel pourcentage, mais les gens ne comprenaient pas grand-chose. Il y a eu le même débat. Et ils ont taillé cette constitution sur mesure, en tenant compte déjà des mains, il faut lui donner un pouvoir honorifique. Figure, il faut l'empêcher d'être candidat à la présidentielle. Et ils ont taillé cette condition sur mesure. C'est des gens qui l'ont fait. Même s'il y a pas d'autres qui n'ont pas participé à l'élaboration, à appeler, à voter, ça a été fait. Mais il y a eu au moins un large consensus là-bas, parce que même ceux qui n'étaient pas à l'élaboration ont appelé à voter. Je pense que c'est un peu ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Les députés qui ont le droit de le faire l'ont fait. Et se rendre compte qu'il n'y a pas eu assez de pédagogie et que certains voudraient peut-être apporter des amendements. Mais la dernière fois, la Constitution a été votée au Mali. Mais Goïta n'a même pas attendu d'avoir des propositions de l'opposition qui contestait. Sa Constitution est passée parce que c'est lui qui a le vent en pourpre aujourd'hui, même s'il n'est pas issu d'une élection. Il semble avoir une certaine popularité et les gens suivent. Mais en Côte d'Ivoire, quand ça a été révisé avec l'instauration du vice-président et tout ça, est-ce que les gens trouvaient utile qu'il y ait un vice-président en Côte d'Ivoire? Mais c'est passé. C'est des lois qu'on peut retoucher. Mais sur l'essentiel, il faut s'entendre. Ce qui garantit à chacun la liberté, le droit au développement et tout ça, je crois que ce n'est pas ça qui est touché. Maintenant, sur les régimes, tout le monde, les gens sont partagés. Certains pensent qu'un régime présidentiel où le président est plus puissant que tout le monde, c'est mieux, il dirige seul. Il a toutes les institutions sous lui. D'autres pensent non, les élus du peuple qui ont presque la même souveraineté que le président doivent aussi avoir l'exercice du pouvoir. Et puis on va même jusqu'à des régimes conventionnels qui n'existent plus tellement, où c'est l'Assemblée qui décide de tout. Mais chaque intellectuel se dit... Ça, c'est bon, selon. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir et qui ont le mandat des populations ont le droit aussi de faire des modifications au nom de ces populations, parce qu'il s'agit d'une démocratie représentative. C'est comme le code de la famille qu'on a voté qui s'impose à nous tous. Est-ce qu'on a contacté toutes les familles, tous les mariés, tout le monde pour savoir si tout le monde est d'accord? On peut associer certains techniciens, des juges, des avocats, des personnes qui s'occupent de ces questions pour venir enrichir un peu. On l'a vu sur plusieurs lois, la loi sur le cinéma, par exemple, même le code de la presse qu'on conteste aujourd'hui parce qu'on l'avait mal lu, on a été associé. Je crois que c'est dans cette logique que la Constitution aujourd'hui, et le chef de l'État demande une relecture, dans l'espoir que ceux qui veulent contribuer à l'enrichir, donc apportent leur contribution.
C'est vrai que dans les propos de Kakoun Boukbo, tout de suite, il y a une phrase qui a attiré mon attention, c'est que on ne peut pas voter une loi fondamentale sans pédagogie préalable. Et donc, mais c'est ce que le chef de l'État demande aujourd'hui. Moi, je me demande, qu'est-ce qui a empêché de le faire avant quand même qu'on arrive jusqu'à cette étape?
Oui, peut-être c'est le reproche que je ferais au pouvoir, c'est-à-dire ce que le pouvoir est en train de faire ou ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Si on avait communiqué assez sur le sujet, peut-être on ne serait pas arrivé à ce niveau. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que le pouvoir présente quelquefois de bons projets, mais comme AMU par exemple, comme INAM dans le temps, tout ça. Mais quand vous voyez le fond, c'est intéressant, mais c'est la démarche au fait qui quelquefois noie le fond. Maintenant, par rapport au sujet, moi, vous savez, par rapport à la Constitution, moi, j'en ai beaucoup parlé et je vais encore en parler. Abstraction faite, ça je le précise, abstraction faite de toute considération partisane. Je ne veux pas parler de UNI ou de l'ANC ou de PDP, non. Comment les choses se passent? Mais quand on parle de manipulation, moi, je suis un peu sidéré. Parce que, vous savez, la Constitution dit que c'est la chose la plus stable. Même moi, je dis que c'est la chose la plus instable. La Constitution française qui est là, de 1958 à aujourd'hui, on l'a modifié à plus de 25 fois déjà. Et les gens pensent même qu'aujourd'hui, on ne doit même plus parler de la 5e République. Il faut aller à une 6e République. Parce que ce que le général de Gaulle avait fait, il avait taillé sur mesure. C'était une constitution présidentialiste. C'était lui le chef, le patron de la République française à l'époque. Et bien, mais ceux qui se sont succédés, les chefs d'État qui se sont succédés ou qui lui ont succédé, après, on dit non, mais c'est quelle constitution ça? Donc, chaque fois, on l'a modifié. Sarkozy l'a modifié. Mais on va revenir tout à l'heure. Maintenant, regardez par exemple, dans chaque constitution au monde, il y a cette phrase qui détruit tout au fait. L'initiative de révision appartient concurremment au président de la République, au premier ministre et à un cinquième des députés à l'Assemblée nationale. C'est dans presque toutes les constitutions. Ça veut dire que vous votez la constitution aujourd'hui, un cinquième des députés à l'Assemblée nationale peut vous dire « Moi, je ne suis pas d'accord sur telle disposition. Nous, nous portons cette initiative. » Et on la modifie, on lance le débat. Le président de la République a le droit légalement de dire, moi j'ai l'initiative de faire modifier la constitution ou de faire même changer la constitution. C'est son droit constitutionnel. Les députés, ces députés-là qui portent aussi l'initiative, c'est leur droit le plus absolu, constitutionnel. Ça n'a rien d'illégal, ça n'a rien d'illégitime. C'est ça la constitution. Maintenant, est-ce que ça peut aboutir? La constitution répond encore avec ces dispositions de constitution stricte. La révision togolaise de la constitution togolaise, elle est stricte. C'est pour cela qu'on parle de 4/5. Ça veut dire, vous portez l'initiative, mais est-ce que vous pouvez avoir les 4/5 des députés à l'Assemblée nationale pour faire passer votre révision? Parce qu'on dit, aujourd'hui qu'au 21e siècle, il est difficile à un parti politique d'avoir 4/5 des députés à l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'on parle de minorité de blocage. Donc si moi, par exemple, j'arrive à avoir 4/5 des députés à l'Assemblée nationale, donc, l'initiative peut facilement passer. Ça, ça n'a rien d'illégal. Mais là, ça, c'est pour la Constitution, pour la révision. Mais là, par rapport au changement de régime, comment ça se fait? En réalité, selon la théorie et selon la coutume, la tradition, on met en place d'abord une constituante. La Constitution, elle est composée quelquefois de juristes, de psychologues, d'historiens, de sociologues et bien d'autres. Mais là, ce sont eux qui pondent le test. Ils réfléchissent sur le test. Après, ils soumettent ce test à l'Assemblée. Ils le soumettent au président de la République. Et le président de la République, lorsqu'il juge le test intéressant, il dit d'accord, donc on lance ça au référendum et le peuple va l'apprécier. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé depuis le 29 mai 2005 en France. Et c'est ce qui fait que la plupart de ceux-là qui veulent modifier, qui veulent passer à une constitution, ne veulent plus de référendum. Le 29 mai 2005, nous sommes en France. On demande à Jacques Chirac, président de la République française, de faire passer par référendum la constitution européenne. Jacques Chirac a dit d'accord, je vais passer. On envoie le test au référendum. Le peuple français a dit non. C'était un dimanche, je me rappelle très bien. Le peuple français a dit non au test. Et le soir, Jacques Chirac a pris la parole et il a démis Jean-Pierre Raffarin de son poste de premier ministre et il a nommé Dominique de Villepin.
On va revenir au Togo.
Mais bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est la coutume. C'est ça qui inspire aujourd'hui. Et maintenant, Sarkozy a dit, c'est vrai que Sarkozy est arrivé au pouvoir en 2007 et a dit non. Le référendum n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Pour une constitution qui doit régir la vie de 500 millions, on parle de l'Europe, de 500 millions de personnes, nous allons faire passer ce test-là, nous allons adopter ce test-là à l'Assemblée nationale. Et ce sont les députés français qui ont adopté la constitution française. C'est sur la base de ce principe qui est devenu une tradition que certains chefs d'État ou certains pouvoirs se disent, bien sûr, on prend le test, on a le test aujourd'hui, on peut le faire passer à l'Assemblée nationale. C'est une coutume qui existe, qui n'a rien d'illégal et que les gens appliquent dans un certain nombre de pays. Mais non, moi, pour conclure, je vais dire ceci. À voir l'allure se pose la situation, je me dis simplement que ce ne sont pas les députés togolais, c'est-à-dire les 81 députés qui ont pondu ce test. Peut-être, il y a eu un groupe quelque part que j'appelle un constituant de
Mais Londres. C'est ce qui a été dit. Il y a un groupe de députés justement qui a proposé.
C'est l'initiative.
Oui.
L'initiative mère était, quand vous voyez le fond, peut-être pour adopter, pour avoir un régime parlementaire, non, je ne me dis pas que ces députés que nous avons n'ont pas toute la compétence de rédiger tout le texte, toute une constitution. Donc je me dis que peut-être qu'il y a un groupe quelque part, peut-être on a les historiens, on a un groupe de personnes, togolais bien sûr, qui ont réfléchi, peut-être c'est une constituant de l'ombre qu'on n'a pas rendu officielle, qui a réfléchi sur le texte.
Mais quel sera l'intérêt de ne pas rendre
c'est ça. Quand on parle d'aujourd'hui de constitution, de large consultation nationale, et c'est pour cela que je dis en réalité, cela, ce qu'on demande aujourd'hui, ou ce qui a été fait déjà, on devrait le faire un peu plus tôt. C'est-à-dire, si le pouvoir l'avait fait un peu plus tôt, peut-être avant 2024,
peut-être on ne serait pas à ce niveau.
D'accord, merci, merci beaucoup Firmin. Alors, Francisco, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a reporté plutôt les élections compte tenu alors de cette question alors de révision constitutionnelle ou du moins d'un changement de constitution, de changement de régime. Ce qui veut dire que ce changement de régime prime sur le calendrier électoral.
Bon, c'est ceux qui décident et qui ont décidé. Et puisque le chef de l'État a reçu l'Assemblée nationale, on ne sait pas si c'est sûr, demande de l'Assemblée nationale, mais je rappelle que les évêques du Togo ont demandé à rencontrer le président de la République. Jusqu'ici, il ne l'a pas encore fait. Mais donc, est-ce que c'est normal qu'on mette le changement de constitution au-dessus des élections.
Du respect alors du calendrier électoral.
Électoral. Vous savez, c'est devenu une maladie au Togo. Je le dis, nos textes sont clairs. Nos textes sont doux à entendre. Mais l'application pose problème. Et quand aujourd'hui, beaucoup nous rappellent, oui, que parce que par le passé, il y a eu telle assemblée qui est passée outre le mandat, et on nous dit allègrement que ça doit continuer, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que nous ne sommes pas en mesure de respecter les tests que nous nous donnons. Donc, quand on voit comment on dit, on va élire un Sénat, et qui vont élire après le gouverneur ou bien président du Conseil
des ministres
et président de la République. Ce qui dit que on doit éclaircir cette affaire de constitution avant d'aller aux élections. Et moi, ce que je dis, qui est simple, quand vous prenez même cette constitution, même les droits et libertés seront annexés dans une constitution qu'on nous dit qui va protéger les Togolais. Nous avions déjà une constitution dans laquelle nous avions des articles qui ont tout donné à la liberté de presse, à la liberté d'expression et liberté de presse.
Mais et la liberté publique aussi.
Publique. Regardez le nombre de personnes qui sont en prison. On apprend même qu'il y a 9 personnes par un communiqué qui circule, qu'on dit du procureur de la République, qu'on a mis, on a appréhendé des Togolais qui seraient en train de distribuer
des
tracts. Et il faut voir, aussitôt après l'adoption, les gens ont voulu faire des réunions, on leur interdit les réunions. C'est-à-dire que sous une constitution qui comporte les droits et libertés, maintenant une constitution dans laquelle on va annexer les droits et libertés, comment ça va se passer? Donc il se pose des problèmes. Pour faire court, moi je dis que cette constitution qui est partie, qu'elle ne revienne plus, que l'Assemblée nationale s'arroge pour dire que ça ne va pas. Puisque, regardez, il y a même hier, si vous avez suivi, le député Djiri Tama, il est en train de faire les démentis, mais ce que Djiri Tama avait dit hier, c'est extrêmement grave. Dans son live sur TikTok, qui dit qu'il a 3 députés à l'Assemblée nationale, dont lui-même, qu'ils ont voté contre. Et qu'il a même les visuels. Qu'il a même les visuels. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les paroles, ça circule. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas écouté, qui le dit. Ces paroles d'un chef de parti politique, qu'il a eu des visuels qui démontrent que ces députés ont voté contre. Mais au final, c'est une seule personne qui a voté contre. Cela veut dire que le député est en train de nous dire, sinon nous a dit, nous dit que ce vote qui s'est passé a eu des problèmes.
Et ouais, même. Il redoute la fiabilité alors.
Mais justement, c'est lui, ce n'est pas moi qui dis.
Mais le vote était aussi.
Je dis, c'est le. Donc, il y a des problèmes dans la procédure, même dans la façon de voter. Je ne sais pas si vous voyez.
D'accord.
C'est un grave problème qu'on doit résoudre tout ça.
D'accord.
Et moi, je dis tout court. Je fais partie des gens qui disent qu'il faut économiser, même aller à une monarchie constitutionnelle. Même je suis même parti demander que les gens, les grands de ce pays, les leaders d'opinion, qu'ils aillent demander à celui pour qui on fait tout ça. Combien d'années tu veux faire? Et on acte ça, on signe ça une fois pour bon. Mais ce qui est en train de se passer, il faudrait, comme je l'ai dit, on a repoussé, pas on a repoussé, on a pris un communiqué pour arrêter le processus, que ce processus soit ainsi arrêté jusqu'en 2025 d'accord. pour faire une élection générale.
Okay,
Francis, sinon des élections merci générales
voilà.
qui va permettre au Togo véritablement d'économiser et non de vouloir rassembler un groupuscule de personnes
d'accord, merci
dans une salle pour un vote.
Voilà, merci beaucoup Francisco. Olivier, c'est vrai, aujourd'hui l'opposition hein, est unie, demande même le retrait pur et simple alors de cette constitution et il y a même d'ailleurs des manifestations hein, qui sont en vue. Il y a Liberté qui revient sur ces manifestations, l'annonce alors de ces manifestations aujourd'hui à la une de, du journal. Bien sûr, on parle de manifestations des 11, 12 et 13 avril. Toute l'opposition a intérêt à taire ces divergences et s'organiser contre la nouvelle constitution. C'est ce que écrit Liberté. Alors, finalement, est-ce qu'on peut s'attendre vraiment, tel que l'opposition le demande, à une à un retrait hein, pur et simple alors de cette constitution, cette nouvelle constitution?
Non, mais il faut savoir que le dialogue et les échanges concernent deux parties. On ne peut pas dialoguer avec soi-même. D'accord? Donc, déjà, on a parlé de large consultation. Ça veut dire qu'il y a deux parties qui vont, en tout cas, du moins deux camps qui, ayant des visions peut-être opposées, qui vont s'asseoir pour discuter. On parle de la révision de la Constitution parce qu'il y a une partie des Togolais, et ce sont des Togolais aussi, ils ont la légitimité et le droit de rêver d'un nouveau régime pour leur pays. Et ce sont des Togolais. Donc, eux aussi, ils ont exprimé un besoin d'aller, d'évoluer sur cette constitution. D'accord ? Ce sont les députés dont on a dit qu'ils ont pris l'initiative. Voilà. Et ils ont aussi des Togolais qui estiment que c'est une bonne démarche. N'oublions pas. Même si on n'a pas fait de sondage, si on peut dire qu'ils sont. Et comment ils ne sont pas en grand nombre, ils sont donc où ils sont en grand nombre, ça, on ne sait rien. Mais quand même, il y a des Togolais qui estiment que on doit évoluer sur le régime, sur la constitution. D'accord ? Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a d'autres Togolais qui estiment que ce n'est, la démarche n'est ni opportune, ni, je ne sais pas, ni comment dire là, importante aujourd'hui.
Voilà, ce n'est pas l'urgence.
L'urgence, voilà, donc aujourd'hui. Donc vous avez alors deux camps qui se créent. Et ces deux camps doivent discuter. Ok ? Bon, j'estime que l'opposition a sa position sur la question. Et elle doit normalement répondre à l'invitation qui lui est lancée pour discuter. Sinon, on va se retrouver dans une sorte de dialogue dessous, où d'autres disent que nous voulons tout simplement le retrait, d'autres disent que nous voulons qu'on vote ça. Et ça va créer un bras de fer. Et dans le cas de bras de fer, c'est le plus fort qui gagne. Et nous savons que si nous arrivons à ce point, nous savons qui celui qui va gagner, du moins.
D'accord.
D'accord. Donc, essayons de mettre balle à terre. C'est vrai que c'est difficile, mais discutons. Essayons de trouver la mesure, d'accord, pour pouvoir aller de l'avant.
D'accord.
Sinon, on va créer encore une situation où le pays serait à feu et à sang. Et ça ne nous arrange nullement pas.
Justement, ça ne nous arrange pas. Alors, Germain, moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui presse aujourd'hui. Parce que quand on voit déjà avec cette question de révision constitutionnelle ou de changement de constitution.
Là, faut même plus parler de révision.
Changement voilà. de constitution, automatiquement, on arrive à reporter même les élections. Qu'est-ce qui presse?
Oui, mais Francisco l'a dit tout à l'heure. Si cette constitution est adoptée, les prochains députés et les prochains sénateurs qui seront installés après les régionales vont avoir un rôle plus important à jouer. Donc cette constitution a une incidence sur le processus électoral qui a lieu. Maintenant, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, le chef de l'État recherche un large consensus autour de cette constitution. C'est pour ça que les consultations, il a demandé à l'Assemblée de passer un deuxième relecture. Mais après, qu'on ne soit pas aussi naïf. Nous sommes en démocratie, ça se passe partout. J'ai donné l'exemple du Mali la dernière fois. Goïta n'a pas attendu un large consensus autour de sa constitution. Partout en Côte d'Ivoire, partout, les pouvoirs changent de constitution. L'opposition n'a jamais validé. Parce que si validé, vous cessez d'être opposant, en réalité. Mm-hmm. Ça, c'est le jeu politique. Si le pouvoir rend des lois, vous les votez, vous approuvez ce pouvoir. Donc, quand ce projet de constitution est arrivé, les gens ont juste choisi un seul sujet, c'est pour dire ça permet au président de s'éterniser. On s'intéresse pas au régime parlementaire, on s'intéresse au président, comme si le président avait besoin de réviser le régime pour pouvoir faire 5 ans. L'actuelle constitution lui permet d'être candidat en 2025. En réalité, il n'a même pas besoin de réviser une constitution pour pouvoir être encore au pouvoir éventuellement. Il a la possibilité d'être candidat et il a la capacité de gagner l'élection de 2025. Donc, on a juste, je crois que l'opposition n'a pas voulu s'intéresser au vrai débat, qui est celui de passer à un régime parlementaire qu'on croit plus intéressant pour le développement parce qu'on donne un rôle plus important aux députés. Et on aurait souhaité la dernière fois qu'il y a eu le débat qu'ils aillent, comme l'a fait le professeur Doucet, que moi je salue au passage, même s'il n'a pas trop tenu parce qu'il était débordé par les autres. Mais il est allé courageusement. Il n'a pas trop défendu sa position, mais il a dit qu'il n'était pas convaincu par tout ça. Mais au moins, il est allé. Les autres qui défendent, qui devraient aller, permettre au peuple de comprendre aussi leur position sur cette constitution. Après, c'est un jeu politique. L'opposition ne va jamais, mais vous verrez que ces consultations qui vont s'ouvrir ne vont pas changer grand-chose, parce que dans tout le pays, ça se passe exactement de la même manière. Maintenant, en 92, on a assisté à quelque chose d'assez extraordinaire. Et Adema était dépouillé de ses pouvoirs. François Mitterrand avait obligé les pays francophones à faire la démocratie. Et cette constitution, il devrait demander à ce qu'on vote pour celle qui est en train de, même si elle passe au référendum, même après les consultations, moi je ne pense pas que cette opposition que nous avons aujourd'hui va dire d'aller voter. Parce que le faisant, on va dire, mais voilà, ils ont rejoint le pouvoir. Tout ce que le pouvoir dit, ils avalisent, ils valident. Non, c'est le jeu politique.
D'accord, c'est
maintenant,
le jeu politique.
Raisonnablement, que ce temps-là nous permette de voir, est-ce que réellement le régime parlementaire peut nous apporter quelque chose de mieux que le régime qu'on veut changer.
D'accord.
Je pense que c'est ce qui intéresse.
Merci beaucoup, Germain. Oui, Firmin, finalement, est-ce que c'est le régime parlementaire qui serait adaptable à nos réalités, puisque vous posiez même la question tout récemment lors d'un colloque?
Oui. En fait, la question là, on l'avait posée lors de la conférence nationale. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le feu Jovi Gali à l'époque avait souhaité que le Togo adopte un régime parlementaire. Il y a beaucoup, même quand on parle aujourd'hui de régime parlementaire, je pense que c'est pas tout nouveau pour le Togo. Maître Joseph Kofigo a évolué dans un système de régime parlementaire. Moi, je me rappelle, ça fait déjà 2 ans ou 3 ans, lors d'un colloque à l'hôtel de février, il a dit que lorsqu'il était premier ministre, il était presque un président de la République. Donc ça veut dire à l'époque, parce qu'il y a une disposition dans la Constitution de 92 où, dans le système parlementaire, c'est le premier ministre ou le président du Conseil qui est le patron. C'est lui le chef de l'exécutif. Maître Joseph Kofigo, c'est lui qui présidait le Conseil des ministres sans le général Léa Déma. Donc ça a existé.
En fait, le mais débat, ça n'a pas duré.
Mais le débat, c'est que le fond, les gens ne parlent pas du fond, mais c'est la méthode. Et puis, moi, je voudrais répondre.
C'est la procédure.
Et la procédure. Vous savez, moi, je dis, quand on dit qu'est-ce qui presse, qu'est-ce qui urge et tout ça, regardez, la constitution que le général de Gaulle a fait modifier, ça a fait durer 12 ans. La constitution que nous adoptons, qu'on veut changer aujourd'hui pour aller à un autre régime, c'est de 1992 à aujourd'hui. Ça fait combien d'années? Ça fait déjà plus de 12 ans quand même. Donc, ça veut dire, en réalité, pour conclure,
plus de 30 ans.
Celui-là qui est au pouvoir, tout quand vous dirigez un pouvoir, c'est-à-dire chacun essaie de faire une constitution avec un petit de ses intérêts. C'est comme ça. Quand vous êtes au pouvoir, vous êtes chef d'État. Sarkozy l'a fait, il a modifié la constitution. Parce que c'est lui qui a passé la 49-3. Parce qu'il dit qu'il veut être puissant quand on lui fait passer un projet à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée ne l'adopte pas,
merci
lui
l'adopte. Merci beaucoup, Firmin. Merci, chers confrères. Puisque notre temps est déjà avancé, nous allons maintenant aussi écouter nos auditeurs. Puisque c'est ça aussi les règles démocratiques, nous allons écouter nos auditeurs. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. GoAfrica Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com.
ACNSS, Sécurité sociale.
Employeurs, travailleurs et retraités relevant du régime géré par la CNSS,
l'assurance maladie universelle est opérationnelle depuis le 1er janvier 2024. Pour une meilleure prise en charge sanitaire de toute votre famille, allez sur le site www.cnss.tg et mettez à jour toutes vos informations ainsi que celles de votre famille. Pour toute information complémentaire, appelez le numéro vert 8323. La CNSS, c'est un pour tous et tous pour un.
Mais où sont passés tes employés?
Ah, il y a le salaire qu'à moi. Plusieurs sont partis.
Mais qu'est-ce qui t'est arrivé?
Mon entreprise a été exclue des procédures de passation des marchés pour une période de 5 ans.
5 ans d'exclusion?
Oui.
Et pourquoi?
J'ai introduit une fausse attestation de bonne foi d'exécution. Et celle-ci a été décelée au moment des évaluations des offres. Le comité de règlement des différends de l'ARCOP a été saisi, ce qui a valu à l'entreprise cette exclusion.
Vraiment désolé, mon frère.
Après de mes erreurs.
Avec l'ARCOP, on avance dans la transparence.
Tout le monde ne fait que parler de...
Jaman célèbre le footballeur Gaillard ce samedi 6 avril 2024 à Thévier. À l'occasion de la phase finale du Challenge National des Gaillards, Jaman vous donne rendez-vous sur le terrain Dr Kaolo de 8h à 18h et au bar DSL à Atikoumé à Thévier à partir de 19h.
La bière numéro 1 du Togo.
Au programme, giga promo sur toutes les bières Jaman, prestations d'artistes surprises, des jeux concours et plein de cadeaux à gagner.
Avec Jaman, on est ensemble.
Jaman célèbre les Gaillards ce samedi 6 avril 2024 au stade Dr Kaolo et au bar DSL à Thévier, à ne pas se faire compter. Avec Jama, on est ensemble.
Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box.
Niao, comment ça?
Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à internet en illimité. Aux MR, sans aucune limite de méga, hein, HM4 et 30 jours sur 30.
Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canal Box. Hein?
Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box Canal Box sont gratuites.
Gratuites? Comment, ma?
Tu as très bien entendu. L'installation et la box FIP sont actuellement à 0 francs.
Je veux avoir ma Canal Box.
Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vive l'internet illimité.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi. Vous pouvez maintenant nous appeler au 22 21 33 114 91 36 73 115. Nous nous ouvrons à vous ainsi. 22 21 33 114 91 36 63 75 pour votre, vos réactions au Club de la Presse aujourd'hui. Allô? Premier auditeur que nous insérons rapidement. Allô?
Comment vous allez?
Ça va, et chez vous, Évangéliste Senghor?
D'accord, ok, c'est pour l'émission.
Allô?
D'accord. Tout d'abord, allô, vous avez...
Oui, allô? Allô? Oui, oui, s'il vous plaît, c'est qui?
Allô?
Oui, oui, le nom c'est...
D'accord, ok. Monsieur Koudou-Koulibatel de Koudou-Koulibatel à la région Centrale.
Vous nous appelez depuis ce
coup? Juste pour le maintenir du fond du cœur... Les journalistes qui sont autour de vous pour débattre par rapport à ce thème, le thème par rapport à la constitutionnelle. Aujourd'hui, sincèrement, du tout.
Décidément, nous avons du mal à vous écouter. Mon cher ami, nous avons du mal à vous écouter. Décidément, nous n'écoutons absolument rien. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est vrai que vous nous appelez depuis Sokodé, mais je pense que les conditions ne sont pas favorables pour que nous vous écoutions. Et 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
C'est comme hier.
Oui, comme hier, allez-y.
Voilà une question de plus sur laquelle les députés à l'Assemblée doivent se pencher, parce que vous voyez un citoyen dans ce collègue qui voulait discuter avec nous, on a de la peine à l'écouter. Vous voyez. Je reviens sur la question d'enrichissement du test que le pouvoir et ses acolytes en train de promouvoir. C'est puisque on demande d'enrichir ce qu'on n'en a pas. Le test que nous appelle 5e République, là, on n'a pas le test pour savoir qu'est-ce qui est insuffisant et qu'est-ce qu'il faut ajouter. C'est là où il faut simplement le retirer, parce qu'il y a un agenda républicain constitutionnel qu'on doit pouvoir respecter. Et comme la procédure est viciée, c'est de reprendre la chose à zéro pour aller posément, pour que tout le monde se sente intéressé par la procédure. Maintenant, pour l'article 144, je remercie le doyen d'à côté là, qui nous rappelle que ce qu'ils sont allés faire, ce n'est pas de la révision. Chaque fois que je pose la question, ils sont incapables de répondre à cette question. Ce que la législation a fait la dernière fois, on dit prenez l'initiative de révision. On n'a pas dit prenez l'initiative de remplacement ou bien du changement. J'ai écouté un de vos invités hier qui citait l'article 51 de la Constitution qui disait que la législature primait leur, représentativité du peuple. Quand tu es représentant de quelqu'un, tu n'es pas la personne. Tu fais ce que la personne te demande de faire. Le peuple n'a pas demandé d'aller changer la constitution togolaise. C'est de ça qu'il s'agit. Ils viennent de faire un renversement de régime constitutionnel. Et c'est un crime imprescriptible. Je ne sais pas pourquoi les juristes togolais ne veulent pas nous aider. Et il faut qu'on nous insulte, nous les autres intellectuels. C'est très marrant, quoi.
D'accord, merci beaucoup, Komi. Voilà, vous avez été largement compris. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir.
Allô? Bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est Didier.
Ah oui, Didier.
Bonjour, monsieur Pouli, bonjour, monsieur Primain.
Oui.
Bonjour, monsieur de Tampa et Olivier Abia. Monsieur Pouli. Mais vous citez souvent le cas du Mali, mais vous oubliez de me dire que la constitution du Mali, de Assimi Goïta, dont vous parlez, a été passée par référendum. Deux membres de la transition ne sont pas cachés, bien quelque part, pour le voter. C'est passé par référendum, même un peu critique. Et je voulais demander aussi à monsieur, mais vous avez bien dit qu'en France, la constitution passe par référendum. Après, on l'a passé par l'Assemblée. Vous pouvez être notre interprète, dit aussi à monsieur le président. S'il peut d'abord passer par rendant la condition qu'il vote, si ça ne passe pas, il peut le passer par l'Assemblée. Et puis, la dernière fois en finir, j'ai posé une question. Comme M. Pouli et puis le Finet sont l'un des grands journalistes du Togo, est-ce que moi, en tant que citoyen, je ne comprends pas ce qui fait que le régime panthère, présidentiel, justement, est-ce qu'il peut me dire humblement un cinquième député qui se sont transformés en constituants, pour que je puisse aller leur demander de m'expliquer au moins ce qu'est présidentiel parlementaire.
Et nous avons invité même d'ailleurs l'un des initiateurs, députés dans cette émission.
Peut-être M. Pouli, Primet connaît les initiateurs. Parce que jusqu'à présent, je voulais demander à M. Pouli, M. Filmet, si je peux, ici, peut bien balancer, bien déposer la constitution là. Au niveau de Cana, je peux venir chercher.
D'accord. Merci beaucoup, Didier. Ok, merci beaucoup, Didier. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Après Didier, un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour, Basile.
Oui, Basile, oui.
Oui, Basile, comment vous allez?
Oui, je vais bien, vous.
D'accord, ça va aussi.
Ma radio.
Oui, diminuez un tout petit peu le volume du pouce.
Bon,
Basile, ça fait toujours à côté de vous, la radio.
Vous pouvez donner un petit temps, là. Allô?
Oui, allez-y.
Oui, mais tu es obligé de diminuer ça complètement.
Oui, allez-y.
Bon, moi, je vais dire, j'aimerais d'abord d'aller voir sur YouTube le truc de professeur Dessa et Donny Dila. Il n'a qu'à aller voir les commentaires. Et puis, comme ils sont fidèles à leur habitude... tous ceux qui soutiennent là-bas, ils sont trois
je salue Francis Nampo au passage. Je pense que moi, ça ne me plaît pas quand ils viennent. Vous soutenez des choses.
Basile.
Ils vont à la compte.
Allô, Basile. Allô, Basile. Basile. Basile.
Pourquoi
allô, Basile. Ah, il semble que Basile ne m'écoute pas. Sincèrement, il est très important quand même que nous acceptions aussi le point de vue de l'autre. C'est très important. 22, 21, 74, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir. Allô. Allô, bonjour. Allô.
Oui, allô?
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Oui, très bien.
C'est Pelé?
Oui, c'est Pelé.
Oui, Pelé Ali.
Ok, je salue la truc. Vous savez, cette direction-là ne va pas aller loin. Le peuple dit non. Vous comprenez? Le peuple a dit non. C'est-à-dire, ne pensez pas aller. Pourquoi le RPT aime toujours la violence? N'allez pas à ce chemin-là. Le chemin-là n'est pas bon. C'est-à-dire, tout le monde a compris qu'en 2010, les politiciens n'ont pas eu d'élection et il y a une minorité à moins de 10% qui partit à cette élection. Mais si vous savez que vous allez changer la constitution, changez la constitution dans votre mandat. Maintenant, vous avez vu tout rester là-bas et que le mandat est expiré. Maintenant, vous prenez un article 2 qui vous donne peut-être la légalité et non la légitimité. Et vous voulez basculer cette légitimité là-dedans, votre légalité qui serait un danger. Vous voyez? C'est-à-dire, le jeu est clair. Retirez, il faut qu'il retire cette loi-là et il y aura la paix dans le pays.
D'accord.
Mais faut pas que comme la société se pousse dans le tout. Parce que on peut te conseiller, mais on ne peut pas tout refuser de penser.
D'accord.
Personne ne peut pas nous dire, je dis que. Cette légalité qu'ils ont là, pour dépasser cette légalité, si c'est tout exprime tout, si tout un individu, il fait un café à un café. Vous voyez, ce n'est pas que les délais sont cons. Les problèmes ne sont pas cons.
Merci beaucoup.
Il faudrait qu'on sache quelque chose. Vous savez, le Togo est un pays de paix. C'est le pays de Macron qui a amené la paix au Togo. Le Togo est un pays de paix depuis. Il faut qu'on respecte la légitimité. La souveraineté du peuple.
D'accord, merci beaucoup, Pelé. Pelé, vous avez été largement compris, Pelé. Merci beaucoup. 22, 21, 33, 114. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne, on doit donner aussi la parole à d'autres personnes. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
C'est bien. Monsieur Kofi.
Oui, monsieur Kofi.
Oui.
Allez-y.
Je voudrais balancer une question à vos invités. Que si, par exemple, et je leur donne une procuration sur mes biens et que je suis toujours sur place. Donc je leur ai donné la procuration et sur peut-être un an et que après les un an, la procuration c'est toujours avec eux, et bien sûr qui n'est plus valable. Peuvent-ils brader ou changer des trucs dans ma propriété, par exemple, sans demander mon avis? C'est ma première question à eux, ça. Maintenant, je reviens proprement à la constitution même. Comment on fait une constitution? On n'avise pas. Et ceux qui vous ont envoyé là-bas, vous ne les avisez pas, vous faites la constitution. Et maintenant, votre supérieur vous dit, c'est pas bien, vous allez aller à une relecture. Et c'est maintenant de venir nous parler de la Constitution. Est-ce que ça peut passer? Est-ce que ça s'entend bien? Merci.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kofi. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce vendredi 22, 21, 3314, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô, bonjour. Allô? 22, 21, 33, 114. Allô? Allô, bonjour. 22, 21, 33, 114. 91, 36, 63, 75. Allô? Décidément, l'auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour.
Décidément, il semble que l'auditeur ne nous écoute pas. Nous revenons en plateau hein, pour faire un tour de table et clôturer l'émission à l'heure d'aujourd'hui. Chers confrères, vous avez écouté les uns les autres hein, se prononcer. Francisco, vous avez écouté les uns les autres, bien sûr, se prononcer alors sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Votre réaction ?
Non, les auditeurs sont tous unanimes, même depuis que cette histoire a commencé. Et j'ai même écouté Papa Sibiti sur plusieurs radios et que la démarche a été faussée. L'opportunité de cette construction n'y a pas. Il faut retourner. Je pense que les gens ont réussi, peut-être leur coup, parce qu'ils ont voulu exposer peut-être Foreign Assembly. Ils ont réussi parce qu'à un moment donné, les Togolais semblaient être sous silence et ne s'intéressaient plus à la vie politique. Mais aujourd'hui, partout, dans les coins de rue, ceux qui même ne parlaient pas de politique aujourd'hui ont commencé et ont recommencé par en parler. Donc, cette histoire de réalité est locale. La dernière fois, j'ai donné ici et comment on désigne un chef en pays Kabyle, en pays Bassa. Firmin n'a pas été en mesure de nous dire comment on le fait et chez lui en Europe, mais il maîtrise mieux la France. Donc, et il faut qu'on laisse cette histoire que nos réalités, tous les autres pays qui ont les constitutions, qui sont en progression, c'est pratiquement la même constitution. Mais les gens émergent, les gens essaient d'émerger. Aujourd'hui, nous sommes dans une conscience juridique qui comporte les droits, les libertés de presse, les libertés d'expression et tout. Mais vous voyez combien sont en prison pour des délits de presse ou qui sont devant les tribunaux. On a notre doyen et Apollinaire Mewene Messé qui est gardé en prison, c'est-à-dire sous mandat de Pau. Depuis deux semaines, même la corporation de la presse n'est pas en mesure de voler efficacement au secours de ce compatriote. Vous voyez dans quel état de droit nous sommes, dans quelle liberté quand les gens nous disent qu'il y a liberté de presse, liberté de communiquer au Togo. Vous imaginez? Et au moment où on ampute les droits et libertés d'une constitution et les gens applaudissent, les gens des universitaires applaudissent sans savoir que eux-mêmes, ils peuvent dans leur coin à tout moment, peuvent venir les prendre parce qu'on remonte l'histoire. Qu'est-ce que vous avez fait hier? On écoute les réseaux sociaux, on lit les publications sur les passés des gens. Et ça arrivera, ça rattrape. Donc il faut que des gens se mettent dans une posture d'aider ce pays et non de plonger, n'est-ce pas, le pays.
D'accord, merci beaucoup Francisco. Olivier?
Non, moi j'estime que le chef de l'État a montré une bonne disposition d'esprit en appelant tous donc à apporter leurs propositions pour enrichir le débat ou du moins le test qui est proposé. Et il faut aussi marquer le fait que, quoi qu'on dise, je prends l'exemple du professeur Kakono Bukpo, il est du régime. Il a été ministre dans le gouvernement donc du chef de l'État. Aujourd'hui, là où il est en train de travailler, c'est le Togo qui, donc, l'a proposé là-bas. Et s'il a donc un avis contraire, c'est aussi l'expression de la vivacité d'une démocratie ou d'une démocratie naissante où le débat, même au sein du régime, est ouvert et tout le monde donc a le droit de parler.
Une démocratie
donc,
dynamique.
Allons-y en avant, discutons entre Togolais, trouvons les meilleures, façons de pouvoir évoluer sur ce débat de révision constitutionnelle. De toutes les façons, que ce soit pour qu'on retouche un test ou qu'on retouche tout le test ou toute la constitution, c'est nous les Togolais qui allons décider. Ceux qui ont fait la proposition sont des Togolais. Nous qui levons aussi notre voix pour critiquer, nous sommes des Togolais. Il faut trouver une ligne médiane pour pouvoir permettre à notre pays d'aller de l'avant, de choisir la meilleure version de ce test.
Merci Olivier. Germain?
Oui, moi je vais répondre un peu à la question. Quelqu'un parlait du Mali tout à l'heure. Je
voulais oui, c'est Didier.
Voilà, juste lui dire que Mali, la constitution a été adoptée par 97% des votants, mais il y a eu un taux de participation de 38%. Ça veut dire que même pas 40% des Maliens ont participé, mais 97%. On prend compte des votants, Donc, on va dire que c'est largement adopté, même si pratiquement moins de... Voilà. Eh, c'est passé. Ce que je voudrais dire, en fait, c'est de ne pas avoir peur de l'innovation. Est-ce que avoir des députés ou des sénateurs plus puissants, plus influents sur le gouvernement, est-ce que ça peut apporter quelque chose de plus ou rester dans le système qui est le nôtre ou qui est celui de certains voisins? Et on dit que ça ne marche pas, contrairement à ce que Francisco disait tout à l'heure. Il disait que ça marche, les gens s'en sortent. Je ne crois pas que c'est la vie là-bas. On peut essayer autre chose. Si ça ne marche pas demain, on peut revenir sur le régime présidentiel, puisque la Constitution peut être touchée. S'il y a une majorité qui estime que ce qu'on faisait avant, c'est mieux que ce à quoi on va, maintenant, il faut que les intellectuels nous aident à mieux comprendre les choses. Et je suis un peu déçu quand j'ai écouté Firmin et Francisco qui disaient que c'est une Constitution qui est venue de certains laboratoires. C'est à croire que le Togolais... ne peut pas écrire une telle constitution. Et le régime parlementaire, ce n'est même pas nous inventant. Ça existe déjà. On n'a pas à créer une constituante qui va s'enfermer pendant des mois, réfléchir à un régime. C'est un régime qui existe déjà.
D'accord.
Qui a fait ça. On a décidé de l'adapter
à nos réalités.
Oui, mais comme le régime présidentiel. Mais même l'adaptation n'est pas en ça, parce que les intellectuels africains, on les attend. Là où il faut adapter des choses, on voit le toujours calqué sur ce qui se fait ailleurs. Maintenant, est-ce qu'on peut innover? Est-ce que ça peut donner quelque chose? Moi, je crois que c'est le débat qu'il faut faire, que de dire non, où on était, on ne bouge plus. On reste, même si ça ne marche pas bien. On est bien dedans parce qu'on veut réviser pour permettre à tel de faire ceci. Ce
Merci là, beaucoup, Germain.
Deux petites choses. La première chose, c'est pour répondre à Germain. Mais c'est ça qui ne m'a pas compris. J'ai dit, ce test-là, ce ne sont pas les députés seulement qui se sont mis à le rédiger. Ça ne sera pas possible.
Qu'est-ce que vous en savez?
Non, c'est comme ça.
Il y a des professeurs d'université.
Jamais on laisse.
Ce n'est pas un truc nouveau.
Non,
Jamais on laisse.
C'est ce qui s'est passé.
Ils ne se sont pas cachés.
On les connaît.
Vous ne connaissez pas ceux qui ont.
Jamais, s'il te plaît.
Quand les gens disent que ce sont les députés qui ont rédigé, ils disent non, ça ne se passe pas comme ça en réalité. Pour rédiger une constitution, il y a un groupe qu'on met en place. Mais pour ceci, peut-être on n'a pas rendu ça officiel. J'ai pas parlé d'étrangers, j'ai dit ce sont des Togolais. Peut-être il y a des juristes, des sociologues qui sont assis et qui ont rédigé ce test. Mais l'idéal aurait été qu'on rende ça officiel, qu'on dise que oui, au fait, il y a, voilà, qu'on, l'idéal aurait été que, qu'on nous dise que oui, il y a une constitution qui a été mise en place et c'est cette constitution qui a accouché de ce test, c'est ce que je dis.
D'accord. Maintenant, rapidement, conclure.
Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont intervenus. Moi, je suis très heureux de ce débat, du fait que les gens nous aient critiqués, mais c'est un grand plaisir, c'est l'expression de la grande démocratie, de la démocratie. Alors, merci à tous ceux qui nous ont critiqués.
Merci.
Ils m'ont dit d'aller parler d'eux ou non devant le chef de l'État. Donc, je leur dis merci. Donc, prochainement, je vais faire un effort pour demander une audience au chef de l'État.
D'accord.
Et il va me recevoir.
Ok, merci beaucoup, Firmin. Merci, Francisco. Olivier. Merci, Germain. D'être passé dans cette émission. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. S'il vous plaît, chers confrères. S'il vous plaît, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Thomas Etedatevi qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dacouté a assuré la mise en ligne. Je vous retrouve déjà lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Passez un bon week-end. Je suis Pascal Sou. Au revoir.
j'adore.
Il y a des choses à éviter ou à savoir négocier pour que la vie à deux passe de quelques petits désagréments. J'ai compris rapidement. Avec toi, c'est sûr, j'apprends. Chaque jour, vois son cortège de surprises et d'étonnements. Je m'éperdu à rester stoïque. Quand tu me fais ta cyclotimique, je reste chic. Je m'ennuie comme un facteur poursuivi par un pite. Oh, ça me fatigue. Parfois, je prends des rides plus vite que le commun des cas. Ça m'intrigue, j'aime ça. J'ai le spleen quand on s'éloigne. Donc, je t'aime. Tu m'en fais baver, mais je t'aime. Tu me prends la tête, moi la tienne, ma reine. Tu vois ce que je dis, je t'aime. Tu m'en fais baver, mais je t'aime. Tu me rends dingue et tu me rends zen. Ma reine, ma proie, ma vampire. On n'a pas les mêmes envies. À croire qu'on n'est pas se dire oui. Tu veux pas, je veux toi plus blablabla bla, bla. Dans le meilleur des cas, oh. Le seul point qu'on ait en commun, c'est finalement d'être humain. Mais y a quelque chose, une sorte d'alchimie, j'y comprends trop rien. On vit pas sur le même tempo, genre décalage horaire Paris-Tokyo. Je commence à douter de la santé mentale du duo. Je suis maso ou quoi? Mon cerveau doit se détraquer quand t'es là. Tu me fais chaud et froid. T'es le cadeau et le chaos, tout ça. Je t'aime. Tu m'en fais baver, mais je t'aime. Tu me prends la tête, moi la tienne, ma reine. Tu vois ce que je dis, je t'aime. Tu m'en fais baver, mais je t'aime. Tu me rends dingue et tu me rends zen. Ma reine, ma proie, ma vampire. C'est mon drame, je suis aussi, j'admets, autant coopérer. C'est ma carme, mon opiacé à moi. Ma mon chute, mon extase. J'ai tendance à aimer, t'attiser sans arrêt. C'est ma femme. Je sens que j'ai grand qu'on me cramer. Je t'aime. Tu m'en fais baver, mais je t'aime. Je prends la tête, la tienne. Moi la tienne. Tu vois ce que je dis. Tu vois ce que je t'aime. Tu m'en fais baver, mais je t'aime. Tu m'en fais baver. Je me rends dingue et tu me rends zèle. Tu me rends zèle. Ma reine, ma proie, ma vampire.
J'adore. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras. Je donnerai tout pour être dans tes bras. Qu'il est temps de se retrouver, retrouver.